Une école pour la vie. L'émission de Radio Grand Ciel qui vous parle de l'actualité de l'enseignement catholique d'Eure-et-Loire, animée et réalisée par
Anne-Sophie Chauveau,
Corinne Vivier,
Claire Tiercelin
et Jean Bourriou, votre serviteur. Alors, au sommaire de notre émission aujourd'hui, en premier, Anne-Sophie.
Alors, nous commençons avec un entretien avec Alain Lost, chef d'établissement coordinateur de l'école et du collège Sainte-Cécile sur Châteaudun.
Et puis ensuite, nous avons la joie d'accueillir Amel et Loïc, qui sont élèves de terminale du lycée Françoise Dominié de Maintenon.
Et puis pour terminer, nous retrouverons, comme d'habitude, notre chronique C'était hier, aujourd'hui, la fresque de la cathédrale au collège Notre-Dame de Chartres. Avoir vécu la rentrée avec le collège Sainte-Cécile à Châteaudun, on retrouve son chef d'établissement, Monsieur Lost. Anne-Sophie.
Oui, bonjour Monsieur Lost.
Bonjour.
Alors, il y a un an, effectivement, il y a eu des déménagements, des changements dans les locaux. Donc, on va revenir avec vous dans le détail. Plus précisément, on va rappeler qu'une partie de l'école Sainte-Cécile est restée rue de Jalan, une autre partie a déménagé, et le collège également a déménagé sur le site de Nermont. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, justement, comment vous avez vécu, on va dire, l'investissement dans ces nouveaux locaux sur Nermont?
Je dirais de façon extrêmement positive, du point de vue des élèves. C'est vrai que d'avoir un espace de plusieurs hectares, ça change d'une cour de récréation de 1500 m². Et donc, ça apporte une vitalité et puis une façon de vivre qui est tout autre. Il y a infiniment moins de goudron et beaucoup plus d'herbage et d'arbres et de fleurs. Et ça participe à une très belle qualité de vie. Et pour un établissement scolaire, c'est quelque chose d'important. Vous évoquiez tout à l'heure les différents lieux. Effectivement, le collège a déménagé durant l'été 2016 sur le site de Nermont, dans les locaux que le lycée utilisait, sachant que le lycée, parallèlement, faisait une opération de domino, si l'on peut dire, ou de chaise musicale, à savoir que le lycée s'est installé dans les locaux le concernant, dans ce qui était les anciens bâtiments de la coopérative Accès Réel à Gralis. Donc nous, on a effectivement beaucoup plus d'espace, et c'est tout à fait profitable, à savoir que ça permet aussi un accueil d'élèves plus confortable. En ce qui concerne l'école primaire, puisque c'est toujours un groupe scolaire, la partie du primaire qui était sur la rue de la Madeleine, donc antérieurement, autrefois, école Saint-Joseph, ces classes-là ont été intégralement rapatriées sur le site de la rue de Jalan. Autrement dit, rue de Jalan, il n'y a plus qu'une école maternelle et une école primaire. Et le collège est, quant à lui, intégralement transféré sur le site de Nermont.
Alors, un an après, vous pouvez relire le fonctionnement donc de ces 12 mois d'installation. Comment aujourd'hui ont été accueillis ou est accueilli ce changement par les parents d'élèves et par les élèves et peut-être pour les enseignants? L'adaptation, l'adaptation pour les enseignants a été difficile?
Alors, on va partir des élèves, puisque en fait, un établissement scolaire existe pour eux. Alors, les élèves, eux, ont vécu ce temps-là de manière extrêmement positive. Ce qui fait que les parents, voyant leur chère tête blonde, brune, rousse, toute couleur confondue, ravis, les parents ont été également sensibles et très positivement à cette modification. Nous n'avons eu au total que deux familles qui, pour des raisons qui n'étaient pas liées nécessairement d'ailleurs au changement du lieu géographique, qui sont restées en centre-ville. Au bénéfice d'un autre collège, mais bon, il n'y a aucun souci, les familles prennent les décisions qu'elles veulent. Quant aux enseignants, bon, de façon générale, lorsqu'on fait le bilan de ce qui s'est passé, y compris avec des documents écrits que je garde soigneusement pour la mémoire, je crois qu'aucun enseignant ne reviendrait en arrière par rapport à ces locaux. Alors, est-ce à dire qu'il n'y a eu aucune contrainte, aucune difficulté? Bien, il y a une première contrainte, c'est que l'espace, qui est très généreux pour les élèves, pose parfois des problèmes, a posé à certains moments des problèmes, par exemple pour la communication intérieure. Vous savez, Sainte-Cécile en centre-ville, c'est une belle bonbonnière. Néanmoins, les couloirs sont infiniment plus grands. Et donc, l'organisation a dû être depuis affinée. Bon, il y a eu quelques changements entre la rentrée 2016 et la rentrée 2017. Par exemple, Rémi Lambré, qui est notre responsable de vie scolaire, n'est plus dans le bâtiment administratif. Elle se trouve bien au cœur de la vie scolaire, dans le grand bâtiment dit bâtiment A. Et c'est une bonne chose. Les professeurs ne sont pas loin. Le bâtiment administratif a bien sûr toute sa vocation. Et puis il y aura bien sûr quelques autres évolutions qui viendront.
Je crois qu'il y a aussi une évolution, même technique, sur le plan de la rentrée. Non, on n'a pas vu ça. Les élèves arrivent.
Ah oui, tout
toujours,
a été étudié, hein, je pense, étudié, au niveau de la circulation dans l'établissement.
La circulation et même la dépose des élèves le matin.
Alors, il y a eu des choses qui ont été faites très récemment. Des choses étaient en gestation depuis de longs mois, mais ça mettait en jeu des compétences multiples en termes de collectivités territoriales qui ont fait tout ce qu'elles avaient à faire. L'an dernier, les premiers points qui ont été réalisés, qui n'étaient pas minces, c'était par exemple l'installation de feux tricolores au croisement de la rue Saint-François et de la route de Courtalin et de la rue Nermont. C'était effectivement une nécessité absolue puisque, comment dirais-je, il y avait une dangerosité aussi liée aux circulations des véhicules. Les collectivités territoriales, dont la mairie de Châteaudun, qui a été en l'occurrence à l'époque, avec la complicité bien sûr de monsieur le maire de la chapelle du Noyer et du conseil départemental, bon, les travaux ont été faits dans les temps et tout était prêt pour la rentrée. Donc c'est à noter, il faut remercier également les collectivités d'avoir pris ces chantiers à bras-le-corps. Et pour la rentrée 2017, avec un décalage de 6 semaines, tout un travail de sécurisation de la rue Nermont vient d'être accompli, c'est-à-dire qu'avec un passage d'une vingtaine de mètres de long, surélevé, avec deux passages piétons, une signalétique tout à fait actualisée, et limitation de vitesse à 30, bon, ainsi que les panneaux indiquant qu'il y a des traversées piétons, des traversées d'élèves, etc.
Alors, voilà. Comment se passe aussi l'établissement Nermont, anciennement, et je pense toujours, est un établissement agricole qui dépend du ministère de l'Agriculture, alors que le collège Sainte-Cécile dépend du ministère de l'Éducation nationale. Comment on peut gérer ce travail avec ces deux ministères?
Alors, les deux établissements gardent leur autonomie. Je dis autonomie parce que ça induit l'idée qu'il n'y a pas de fusion derrière. En revanche, il n'y a pas d'indépendance au sens strict. Il nous faut bien vivre ensemble, le mieux possible. Je crois que, de façon générale, les choses ne se passent pas mal. Et donc, quand je dis autonomie, et puisque vous faisiez allusion aux deux ministères, ça veut dire qu'il y a bien deux chefs d'établissement distincts. D'abord parce qu'ils ne sont pas régis par les mêmes textes. Par exemple, dans l'enseignement agricole, c'est, en théorie, le président de l'association de gestion qui ouvre les sections pédagogiques. Alors, bien évidemment que le chef d'établissement à toute son autorité liée à sa qualité professionnelle, et ce qui est le cas. En enseignement dépendant du ministère de l'Éducation nationale, et particulièrement en loi Falloux, l'établissement est ouvert au nom du chef d'établissement. L'OGEC, lui, garantissant la pérennisation de l'établissement lorsqu'il y a un changement d'établissement. Le chef d'établissement qui part ferme l'établissement, le suivant rouvre l'établissement à son nom, et ainsi de suite. Voilà. Alors qu'un établissement public, sa pérennisation est assurée par l'État, puisque ça dépend directement du ministère.
Et est-ce que avoir ces deux identités sur le même lieu permet des apports pédagogiques, des échanges
Il y a déjà eu des échanges, et notamment pour la rentrée de septembre 2017, certains élèves ont pu bénéficier de certaines périodes d'immersion dans les sections technopro, si j'ose dire, des 4e et 3e T Techni Agro. Ça, c'est le premier point. Donc, la proximité a favorisé cela. Et deuxièmement, les élèves qui ont choisi comment dirais-je, ces formations-là ont bénéficié du fait qu'il n'y avait pas de transfert géographique pour eux. Bon, éventuellement une classe est à tel étage plutôt qu'un autre étage, mais tous les élèves sont sur le même territoire, qu'ils soient, si j'ose dire, de la loi Falloux ou de la loi Rocard, par exemple. Voilà.
Et sur le plan animation, est-ce qu'il y a des choses qui sont partagées ou c'est vraiment de...
Alors, il y a eu des éléments d'animation, notamment en début d'année, l'année passée, qui ont pu être partagés. Je pense qu'il faudra que nous fassions mieux. Mais là aussi, il fallait que chacun prenne ses habitudes, apprenne à gérer mieux l'espace dans lequel il arrivait. Il a bien fallu une année. Et encore, vous savez, lorsque vous déménagez, ou lorsque des personnes achètent une nouvelle maison, elles déménagent souvent dans leur propre intérieur avant de trouver une place qui soit satisfaisante, et pour chacun, chacune, et j'allais dire pour le mobilier.
Et sur le plan de la pastorale, comment est vécu ces deux entités aussi différentes ou...
Alors, sur le plan de la pastorale, il y a encore beaucoup de choses à faire. Bon, on avait jusqu'à présent l'aide de Mme Deblic. Les choses sont en réflexion pour cette année. Michel Boisaubert, qui est le prêtre référent, vient tous les mardis célébrer l'Eucharistie. Et ce qui était un frémissement, je précise quand même que la célébration de l'Eucharistie existait depuis mon arrivée en septembre, non pas septembre, pour être précis, novembre 2013, donc quelques mois après l'arrivée, et que, bon, c'est une habitude que... Enfin, une habitude. Le mot « habitude » ici pourrait sembler péjoratif, mais c'est un événement qu'il faut que nous conservions. Et les élèves qui viennent sont heureux de ce qui se passe. Et il faudra que là, nous travaillions beaucoup plus. Alors, en ce qui nous concerne, Sainte-Cécile, c'est, comme tutelle, la congrégation des sœurs...
De Ruyer,
enfin, la charité de la Providence de Ruyer. Et là, il y a tout un travail qui se fait dans cette congrégation qui était une petite congrégation vieillissante. Et l'arrivée de quelques nouveaux chefs d'établissement est en train de relancer un travail sur le charisme de la congrégation et comment, à nouveau, le réintroduire au mieux dans nos établissements. Sachant, et je le précise, que la lettre de mission du chef d'établissement, si elle lui demande, bien sûr, de préserver et de faire vivre ce charisme des sœurs de la congrégation de Ruyer, lui demande aussi d'être un établissement dont le pasteur est l'évêque de Chartres.
Alors, on peut peut-être rappeler combien vous avez d'élèves sur votre établissement. En 2016, vous avez ouvert une classe de 6e, puisque les locaux étaient appropriés pour accueillir une nouvelle classe.
Alors, ça nous a permis effectivement d'accueillir une nouvelle classe sans que les élèves soient serrés, comme ça aurait été le cas si nous étions restés rue de Jalan. Et nous avons ouvert à la rentrée de septembre 2017 une classe de 5e. Donc, c'est un suivi logique et bien sûr qui montre également une augmentation du nombre d'élèves. Sachant que, pour qu'il n'y ait aucun malentendu, un, on ne s'inscrit pas dans le cadre d'une rivalité avec les collègues de l'enseignement public, ce qui serait complètement aberrant, et ce n'est pas le but de l'opération, mais simplement un retour vers ce qu'étaient les équilibres d'effectifs d'il y a 5, 6, 7 ans, bon, qui avaient considérablement baissé lors des rentrées de 2011, 2012 et particulièrement. Et on est en train de retrouver ces niveaux-là. L'objectif, je le répète, n'est pas d'ouvrir des classes, c'est d'accueillir dans de meilleures conditions les élèves, qu'ils y trouvent un compte, je dirais, d'aspect confortable pour vivre les méthodes pédagogiques actuelles qui sont certainement beaucoup plus actives qu'autrefois.
Donc, en cette rentrée 2017, votre établissement compte combien d'élèves ?
Alors, le collège est à 256 élèves, sauf erreur de ma part, une unité près. Et c'était l'année dernière de 233 ou 234 le jour de la rentrée. Donc autrement dit, sachant que l'année 2016 était déjà en augmentation sur la rentrée 2015.
Tout à l'heure, nous avions vu avec vous, Monsieur Lost, effectivement, la hausse des effectifs au niveau de vos élèves. Votre équipe d'enseignants s'est également enrichie de nouveaux enseignants recrutés pour cette rentrée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et une anecdote que vous nous avez racontée tout à l'heure?
Alors oui, bien sûr, tout à fait volontiers. Au niveau des enseignants, il y a 6 enseignants nouveaux. En SVT, il y a deux visages qui sont arrivés dans l'établissement, puisque bien sûr, il y a eu, ça s'explique par le fait qu'il y a eu un départ en retraite, tout simplement, pour bons et loyaux services rendus. Je ne citerai pas le nom de la dame, parce que peut-être qu'on restera modeste. Et puis, bon, un prof en physique, là, en revanche, c'est un professeur qui, lui, enseignait beaucoup en lycée, voire en post-bac. C'est vrai, et qui arrive en collège, mais bon, je pense qu'il va, s'habituer à ce nouvel, à ces nouveaux élèves, parce que ça n'est pas, bien sûr, en termes de niveau, comme on dit souvent en enseignement, c'est un petit peu différent. Un professeur de musique, qui est une coqueluche de l'établissement, là. Et d'ailleurs, et précisément, le concernant avec une anecdote, puisque je pense qu'il ne m'en voudra pas, il s'agit de M. Guillaume Barbier. Guillaume Barbier est le fils d'un, monsieur que j'ai inscrit comme étant un de mes premiers élèves en, dois-je le dire, j'ai ma coquetterie aussi, en 1972 à Saint-Gabriel de Châtellerault. Et après avoir eu le papa comme élève, eh bien, j'ai vu arriver le fils dont j'ai découvert qu'il était et le professeur de musique que j'attendais. Et le fils de ce papa que j'avais accueilli comme élève.
On sent, voilà. On sent chez vous cette passion de l'enseignement, comme une vocation aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour encourager des jeunes qui se poseraient la question ?
Alors, c'est une très très bonne question et une très bonne intervention. C'est qu'effectivement, il faut que les parents sachent qu'autrement vont les choses. Il faudra bientôt faire des rafles pour trouver des enseignants. Or, c'est un métier absolument passionnant. C'est un métier très riche. C'est un métier d'ouverture. C'est un métier... comment dirais-je, d'empathie, c'est un métier, j'emploie le mot affect, j'ai pas dit d'affection, ce qui est très différent. Et on voit bien, j'ai employé ces mots-là volontairement, parce qu'on voit bien toute la dimension humaine qu'il y a dans, dans ces perspectives. Et qu'il s'agit aussi d'aider des jeunes à grandir, qui n'attendent que cela. Alors bien sûr, ils ne sont pas en 2017 comme ils étaient en 1952, mais c'est très très riche, et c'est extrêmement motivant, et on voit régulièrement... des retours, j'allais dire, sur ce que les élèves ont reçu. Et ils viennent régulièrement, et ne serait-ce que pour Sainte-Cécile. Quand je vois le nombre d'élèves qui reviennent chaque année revoir leur équipe enseignante, je me dis c'est que l'équipe enseignante a laissé quelque chose de très, très positif.
Alors, puisqu'on fait cet aparté sur le recrutement, concrètement, si quelqu'un est intéressé, comment on fait ?
Eh bien, si quelqu'un est intéressé, on appelle très vite au secrétariat de l'enseignement catholique à Chartres.
Merci. Nous remercions M. Lost qui est venu nous parler un an après de ce déménagement du Collège Sainte-Cécile. Alors, après avoir entendu M. Lost, Corinne, vous vouliez nous présenter deux stagiaires.
Eh bien oui, Jean, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Amel et Loïc, qui sont donc des élèves de terminale du lycée Françoise d'Aubigné à Maintenon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va peut-être vous laisser vous présenter rapidement, Amel.
Je m'appelle Amel et je suis au lycée Françoise d'Aubigné de Maintenon depuis ma seconde. Et je suis en stage à la DDEC de Chartres.
Alors DDEC, on peut peut-être dire, Direction diocésaine de l'enseignement
voilà.
catholique. Voilà, et tu es en quelle section tu es...
En gestion administration.
Et toi Loïc?
Pareil, en gestion administration au lycée Françoise d'Aubigné à Maintenon.
Et toi tu es...
Je suis au service comptabilité à l'Economa.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre lycée, justement, Françoise d'Aubigné à Maintenon, nous donner un petit peu les différentes filières qui sont proposées aux jeunes lycéens?
Alors, le lycée Françoise d'Aubigné de Maintenon, c'est une toute petite structure d'environ 150 élèves. Et on y trouve, alors il y a Bac Pro, gestion administration, commerce, vente et CAP, vente et commerce.
Alors, dans le cadre justement de votre bac, vous avez un certain nombre de stages à suivre. Est-ce que vous avez des stages à suivre dès la seconde ou c'est surtout sur la première et la terminale ?
En fait, nous avons deux stages en seconde ainsi que deux stages en première et en terminale. Et en fait, chaque stage compte, que ce soit pour le BEP ou pour le bac de fin d'année.
Alors, le stage que vous faites actuellement à la direction diocésaine de l'enseignement catholique, il est de 5 semaines. Est-ce que, Amel, tu peux nous dire tout ce que tu vois, justement, avec ton maître de stage ?
Eh bien, pour l'instant, j'ai beaucoup vu de choses que je faisais en cours, comme par exemple les mails, envoyer des mails ou les ouvrir. Et je fais aussi de l'accueil téléphonique, je réponds aux appels téléphoniques. Et tout ça, ça rentre un peu dans la gestion administration.
Alors toi, Loïc, tu es au service Economa Comptabilité. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais actuellement justement avec ton maître de stage?
Alors moi, ce que je fais plutôt, c'est plus de l'administratif. Donc je fais la gestion des inventaires, rédaction de mails, pareil qu'un mail. Et là, je vais voir un peu les rapprochements bancaires.
Vous pouvez nous dire ce que ces stages ont comme, vous apportent comme compétences supplémentaires et est-ce que cela vous aide dans votre future orientation, c'est-à-dire qu'après votre bac pro, sans doute que vous allez devoir prendre des décisions, soit de poursuivre, soit aller sur le marché du travail. Donc voilà, ces stages, qu'est-ce que ces stages vous apportent ?
Ça nous familiarise avec le monde du travail, ça nous habitue un peu... À être dans la vie active. Et puis, forcément, on voit un peu plus de choses qu'on pourrait voir en cours.
Loïc, tu veux rajouter quelque chose ?
Oh non, c'est impeccable.
Alors, votre avenir, vous le voyez comment après ce bac pro, Loïc ?
Alors moi, je ne sais pas encore si je continue ou pas, mais il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est les drones, l'univers du drone. Donc, pourquoi pas m'orienter dans des formations pour devenir pilote professionnel de drone ?
Amel ?
Moi, je n'ai pas encore trop d'idées sur quel métier je ferai. Je pense rester dans la gestion administration, dans tout ce qui est secrétariat ou autre.
Donc, tu as envie de continuer tes études ? Oui. Eh bien, écoutez, Amel et Loïc, merci beaucoup d'avoir dégagé un petit peu de temps dans ce stage où on vous sent très assidus. Et puis, on vous souhaite bien sûr bonne chance tout au long de cette année et puis surtout au moment du bac.
Merci.
Je vous remercie.
Au revoir. Nous retrouvons Claire pour la chronique « C'était hier » consacrée à l'enseignement catholique d'Eure-et-Loire et aujourd'hui, Claire va aborder la fresque de l'institution Notre-Dame de Chartres.
Et oui Anne-Sophie, en 1994, la cathédrale de Chartres fêtait le 8e centenaire de sa reconstruction. La genèse de cette fresque est due à un élément bien fortuit. L'inspecteur d'académie propose aux établissements scolaires, cette année-là, de participer à un concours sur le thème des anges messagers. Monsieur Jean-François Poitevin, professeur d'art plastique à l'institution Notre-Dame rue des Lys, alors l'idée géniale de profiter de cette proposition pour l'associer à la commémoration du 8e centenaire de la reconstruction de la cathédrale est de proposer de dessiner et de peindre dans la cour de l'établissement une gigantesque fresque sur le thème des anges. M. Joseph Neveu, directeur, et M. Doutriot, président de l'OGEC, donnent leur accord. Il ne reste plus qu'à M. Poitevin de dessiner les tableaux à peindre et de sensibiliser ses élèves. Il s'inspira des vitraux et anges de la cathédrale, mais aussi de peintres aussi célèbres que Fra Angelico ou Raphaël. Après un bon nettoyage de la cour, les dessins prennent forme sur 1300 m². Monseigneur Perrier donnera le premier coup de pinceau. Il a peint la main d'un ange. Pendant les cours de dessin, les élèves se succèdent pour peindre cette œuvre d'art. Des professeurs, des parents n'hésitent pas à donner un coup de main. Et de la peinture, il en a fallu pas moins d'une tonne sept. Heureusement, des sponsors avaient fourni à prix coûtant la précieuse matière première. Pendant tout ce temps, les élèves durent utiliser modérément la cour de récréation. La réalisation dura de mai à juillet, mais aussi pendant les vacances d'été avec de courageux volontaires, et en septembre, la fresque fut inaugurée en présence de Mgr Perrier et du cardinal Poupart, président du Conseil pontifical pour la culture au Vatican. Un accident vint entacher cette journée de fête. Le professeur de technologie, M. Gross, devait tomber en parachute au milieu de la cour. Mais un coup de vent impromptu le dérouta dans les jardins de l'évêché, où il fut sérieusement blessé dans sa chute sur des objets indésirables. La fresque a pu être visitée pendant plusieurs week-ends. Des centaines de cartes postales ont même été vendues aux touristes. Des photos ont été prises depuis les clochers de la cathédrale. Dans la cour, les visiteurs étaient accompagnés par une création musicale de Jean Bourouilloux, professeur de musique dans l'établissement. Une partie des bénéfices a servi à financer une œuvre humanitaire au Rwanda. Au fil des années, elle s'est bien sûr estompée, mais le travail des élèves, leur enthousiasme à réaliser ensemble cette œuvre d'art resteront comme un moment inoubliable dans la mémoire de ces collégiens et de leurs professeurs. Et bien sûr, M. Poitevin, avec cette belle réalisation, remporta le premier prix du concours de l'inspection d'académie.
C'est bientôt la fin de notre émission, mais avant de conclure, un petit agenda, Anne-Sophie.
Oui, alors déjà quelques annonces pour l'institution Notre-Dame de Chartres. Les portes ouvertes auront lieu pour le collège, le lycée et l'enseignement supérieur le 18 novembre de 9h30 à 12h30. Et ce même jour, à 15h au SELF, aura lieu la remise des diplômes du baccalauréat. Ensuite, des portes ouvertes également sur Annette à l'école Notre-Dame le samedi 9 décembre de 9h à midi.
Et puis des petites précisions, si vous réfléchissez pour devenir enseignant, n'hésitez pas à appeler la direction diocésaine de l'enseignement catholique qui se trouve 22 avenue d'Aligre à Chartres. Un numéro de téléphone, le 02 37 88 33 20. Et puis un site ec28.com. Où vous trouverez tous les renseignements.
Voilà, nous avons été ravis de passer cette demi-heure avec vous. On se retrouve le mois prochain.